Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel. Mercredi 12 mars, bonsoir à tous, encore une actualité très riche ce soir, on va l'analyser, on va la commenter, on va l'illustrer. Bienvenue dans la session soirée de l'info sur RFI, c'est parti pour 3 heures et pour débuter dans 10 minutes, Véronique Rigolet, votre décryptage. Vous nous emmenez ce soir en Syrie où déjà rejaillit le spectre de la guerre civile.
C'est en tout cas la grande crainte de la communauté internationale, horrifiée par les massacres de ces derniers jours dans l'ouest du pays qui ont fait près de 1400 victimes civiles, principalement parmi la communauté alaouite. La Syrie va-t-elle sombrer à nouveau dans un chaos communautaire? Le président Al-Shara aura-t-il l'autorité nécessaire pour mettre fin aux tensions? On en parle avec nos invités David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, et Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union Européenne en Syrie.
À tout à l'heure. Juste après, le débat du jour évoquera ce soir la dissuasion nucléaire. Voilà un terme qui refait surface dans l'actualité. Il figure dans la palette possible de l'Europe pour assurer sa propre sécurité après le désengagement des États-Unis. Est-ce qu'il faut étendre la dissuasion nucléaire française? Voilà la question que nous poserons. Comment cela se traduirait-il? Qu'est-ce que cela apporterait? Et surtout, est-ce que ce serait suffisant en cas de menace russe? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir et le dossier qui nous emmènera au Canada, qui a annoncé bien de nouveaux droits de douane de représailles sur certains produits américains. 18h30 TU Afrique Soir, première édition de ce mercredi, 19h10 temps universel, comme chaque soir, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera en Hongrie, où la guerre hybride de l'information est menée par le pouvoir de Viktor Orban. Enfin, le grand reportage ce soir, lion et tigre de compagnie, voilà une obsession pakistanaise. Mais pour l'heure, à 17h02, temps universel, c'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Romain.
Et donc cette grande question qui fait la une de l'actualité ce soir, y aura-t-il un cessez-le-feu après plus de 3 ans de guerre en Ukraine?
Oui, hier en Arabie Saoudite, la délégation ukrainienne a approuvé la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. La réponse de la Russie, elle se fait attendre. La présidence russe explique qu'elle souhaite connaître le détail de la proposition directement auprès des diplomates américains. Côté ukrainien, le rétablissement des livraisons d'armes et des échanges de renseignements avec les Américains rassure. Romain Lemaresquier a recueilli la réaction d'Olksey Ontcharenko, député ukrainien, membre de l'opposition. Il se montre satisfait par les derniers développements.
I welcome this agreement and I think this is a very good result.
Je me félicite de cet accord et je pense qu'il s'agit d'une très bonne chose. Tout d'abord parce que le soutien militaire à l'Ukraine est rétabli, ainsi que l'échange de renseignements, ce qui est très important pour nous. Et cela montre une fois de plus que les États-Unis sont aux côtés de l'Ukraine, ce qui est aussi très important. En ce qui concerne le cessez-le-feu, je pense qu'il s'agit d'une bonne étape. L'Ukraine en a besoin. Nous n'accepterons pas de capituler, nous n'allons pas le faire, mais nous avons besoin de la paix dès que possible. C'est donc un pas dans la bonne direction. Désormais, nous allons voir le vrai visage de Poutine, car avant ça, il était heureux de voir des divisions entre l'Europe et les États-Unis, l'Ukraine et les États-Unis. Mais maintenant que nous avons une position commune, nous allons connaître sa véritable position. Je pense que Poutine ne veut pas la paix et qu'il va essayer de gagner du temps ou trouver quelque chose d'autre. Selon moi, les Américains doivent se préparer à faire pression sur Poutine pour qu'il accepte la paix.
Et après la réunion d'hier entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite, Varsovie a indiqué aujourd'hui que les livraisons d'aide militaire à l'Ukraine via la Pologne, que ces livraisons avaient repris. Autre grand titre dans l'actualité, la guerre commerciale que Donald Trump a engagée avec le reste du monde. Nouvelle étape ce mercredi. Toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis se voient appliquer une surtaxe de 25%. L'acier européen, déjà en pleine crise, n'en avait pas besoin. L'Union européenne et la Chine ont promis de riposter. Le Canada, lui, appliquait en rétorsion de nouveaux droits applicables à certains produits américains. Des droits pour un montant total de 18 milliards d'euros d'importation. Ils concernent notamment les équipements sportifs, les produits en fonte ou bien encore les ordinateurs. Économie toujours, clap de fin pour Northvolt, un pionnier dans le secteur des batteries électriques en Europe. Plombé par les dettes, le fabricant suédois a déposé son bilan, faute de trouver des financements nécessaires à sa survie. Agnieszka Kumors en est presque fini des espoirs européens de concurrencer les groupes asiatiques.
Face à la déferlante des fabricants chinois de batteries, l'Europe est clairement à la traîne. Elle ne représente que 3% de la production mondiale de batteries. Si Northvolt a ouvert la voie, qui donc pour lui succéder ? En 2020, Stellantis et Total Energy ont créé Automotive Cells Company, ACC, qui a connu une ascension fulgurante. En 2023, le fabricant a ouvert sa première gigafactory dans le nord de la France et envisageait pas moins de 9 blocs de production répartis entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Un investissement total de plus de 7 milliards d'euros. Mais depuis, les projets allemands et italiens ont été gelés. Face au ralentissement du marché de l'automobile électrique, ACC a été contraint de réduire la voilure. Un plan de départ volontaire pour une partie du personnel a été acté. Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté la semaine dernière un plan d'action à moyen terme avec notamment des subventions directes aux fabricants européens.
L'avion censé transporter Rodrigo Duterte, l'ancien président des Philippines, vers la Cour pénale internationale. Cet avion s'est posé dans l'après-midi à Rotterdam, aux Pays-Bas. Rodrigo Duterte a été arrêté hier à son arrivée à l'aéroport de Manille, à la demande de la CPI, la Cour qui enquête sur la guerre contre la drogue livrée sous sa présidence. Une opération à grande échelle de l'armée pakistanaise a été déclenchée suite à l'attaque d'un train par des séparatistes baloutches dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec l'Afghanistan. Le train transporté plus de 450 passagers. Après plus de 30 heures d'affrontement, tous les otages ont été maintenant libérés. Antonio Guterres avait préparé le terrain avant le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Actuellement, l'organisation est sous pression. Elle a face à elle un président américain obsédé par les coûts budgétaires et l'efficacité des administrations. Dans ce contexte, son patron a décidé de lancer une refonte appelée ONU 80, 80 comme l'âge de l'organisation. Les précisions à New York de Karine Auton.
L'ONU 80 va être pilotée par une équipe spéciale avec à sa tête un Britannique pour auditer le système. Elle va proposer aux pays membres de l'ONU des pistes de gains d'efficacité. Elle va aussi passer au crible l'ensemble des mandats qui ont été confiés à l'ONU, de plus en plus nombreux ces dernières années. Et enfin, elle soumettra des changements structurels profonds. Tout cela devrait être particulièrement apprécié par le président des États-Unis, l'un des principaux membres en termes de décision et de financement, puisque le patron de l'ONU a adopté un langage d'efficacité et de changement et a appelé à faire encore plus d'efforts. Antonio Guterres.
Il s'agit des contribuables du monde entier qui paient tout ce que nous faisons et il s'agit de garantir des conditions de travail adéquates à tous ceux qui servent sous le drapeau de l'ONU dans l'accomplissement de leur mission essentielle. Pour toutes ces raisons, il est essentiel qu'un système organisationnel aussi complexe et crucial que l'ONU se soumette à un examen rigoureux et régulier afin d'évaluer son aptitude à remplir efficacement ses objectifs.
Et Antonio Guterres de rappeler que les budgets à l'ONU ne sont pas que des feuilles comptables, mais que des centaines de milliers d'êtres humains dépendent d'eux. Karine Auton, New York, RFI.
Au Groenland, les élections législatives organisées hier ont été remportées par l'opposition. Le vainqueur est un parti favorable à une transition lente vers l'indépendance. Il se dit prêt à discuter avec tous les autres partis. Avant de refermer ce journal, une page football. Au programme ce soir, la suite et la fin des huitièmes de finale en Ligue des Champions. Un programme dominé par le duel des Madrilènes, Atlético contre Real. Et côté français, Lille rêve d'imiter le PSG qualifié au détriment de Liverpool. Et pour cela, les nordistes doivent battre le finaliste sortant, le Borussia Dortmund. Le LOSC en quart de finale de la Ligue des Champions, ce serait une première historique. Thomas de Saint-Léger, bonsoir. Vous êtes sur place au stade de Pierre-Mauroy.
Oui Gilles, c'est la troisième fois que Lille est en huitième de finale. En 2007 et en 2022, l'histoire s'était arrêtée là. Et si c'était la bonne ce soir, et si la porte des quarts de finale s'ouvrait enfin, il y a de vraies raisons d'y croire. D'abord, les hommes de Bruno Genesio reçoivent pour cette manche retour, une semaine après un bon nul un partout en Allemagne. Ils sont en confiance avec des matchs références cette saison, victoire face au Real Madrid, face à l'Atlético. Et puis face à eux, c'est un Borussia en crise, crise de résultats, dixième place seulement en Bundesliga, crise, tension dans le vestiaire aussi, une altercation à opposer deux joueurs il y a quelques jours. Voilà, dit comme ça, les planètes ont l'air alignées, mais attention, il faut aussi se rappeler que le Borussia est le finaliste sortant de cette Ligue des Champions, qu'il a l'expérience et une gâchette redoutable devant Serhou Guirassy, l'attaquant guinéen, passé par Lille au début de sa carrière. Déjà 10 buts cette saison pour lui en Ligue des Champions. Il sera bien sûr titulaire dans une trentaine de minutes maintenant devant 40 38 000 spectateurs. Match à guichet fermé, évidemment.
Merci, c'était Thomas de Saint-Léger, en direct du stade de Pierre-Mauroy de Lille.